Vous êtes sur RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Samedi prochain, 200 millions de téléspectateurs au moins regarderont la 64e finale de l'Eurovision. En direct de Tel Aviv, la France sera représentée par un jeune homme de 19 ans, Bilal Hassani, que vous ne pouvez pas ne pas connaître et à qui on souhaite évidemment bonne chance. Ce soir, ce n'est ni la compétition ni l'artiste qui nous intéresse, mais la stratégie des organisateurs français, en particulier du diffuseur de l'événement France Télévisions. Depuis plusieurs années, c'est une véritable machine de guerre qui a mis en place l'audiovisuel public pour susciter l'attention autour de cet événement. Eurovision, comment la France a fait sa mue? C'est le thème de notre émission de ce soir avec Benjamin Meffre de Pure Média. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et avec notre invité Antoine Boilet, bonsoir.
Bonsoir à tous les deux et bonsoir à tous.
Vous êtes secrétaire général des antennes de France Télévisions. Vous allez donc nous expliquer dans un instant en quoi consiste cette nouvelle stratégie. Mais d'abord, l'actu média de la semaine. C'était la DER de Patrick Sébastien hier soir sur France 2, ses dernières années bonheur et ses quelques mots.
Je voulais vous dire tout d'abord que je remercie vraiment le service public de m'avoir fait confiance pendant 23 ans. Je voulais vous dire que j'ai pas de rancune sur ce qui se passe parce que il y a des choses bien pires dans la vie et que ma maman, que beaucoup ont connu ici, me disait toujours, c'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Et puis je voulais vous dire aussi que je suis fier, finalement. Je suis fier pendant toutes ces années de m'être jamais trahi, jamais. Ni de vous avoir trahi vous, c'est-à-dire d'avoir fait des émissions populaires et d'avoir résisté tant que j'ai pu à la bien-pensance et au politiquement correct. Et putain, je suis arrivé jusqu'au bout et j'ai tenu bon.
Patrick Sébastien, donc, hier soir sur France 2. Après le départ annoncé de Thierry Beccaro, le jeu Motus devrait s'arrêter. En revanche, selon nos confrères du Parisien ce matin, des chiffres et des lettres devraient sauver sa peau la saison prochaine. Toujours à France Télévisions, une bonne semaine pour la patronne Delphine Ernot. Non seulement elle a annoncé des comptes à l'équilibre pour la quatrième année consécutive, mais elle a réussi à faire changer d'avis une majorité de syndicats qui ont fini par signer le plan d'économie imposé à l'entreprise. Bras de fer entre le CSA et BFM TV. Les sages estiment que la convention de la chaîne lui interdit de diffuser, comme elle en a l'intention, la finale de la Ligue des Champions Tottenham-Liverpool le 1er juin prochain. Enfin, on souhaite une longue et belle carrière devant ses fourneaux à Samuel Albert. Le jeune cuisinier angevin a remporté cette semaine sur M6 la 10e saison de Top Chef.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon. Laisse-moi m'envoler.
Alors on ne sait pas si Bilal Hassani remportera samedi prochain l'Eurovision, on croise les doigts évidemment. Ce qui est sûr, c'est que quasiment tout aura été fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Depuis plusieurs années, France Télévisions, qui retransmet l'événement, a complètement changé de stratégie. Antoine Boilet, vous êtes secrétaire général des antennes de France Télé. En fait, cette stratégie, elle est née quand ? Il y a 4-5 ans, c'est ça ?
En fait, effectivement, cette stratégie, elle est née en 2015. France 2 a récupéré le concours sur la chaîne. Et là, on a découvert, en fait, que l'Eurovision, c'est les Jeux Olympiques de la chanson. C'est le divertissement le plus important dans le monde. L'audience est absolument colossale. Donc, c'est vrai que c'est l'année de Lisa Angel, qui avait une belle chanson. Il se trouve qu'effectivement, elle n'a pas été bien classée à l'arrivée.
25e sur 27, hein, on rappelle.
Donc, c'était effectivement compliqué, mais dès cette année-là, c'était le démarrage du retour de l'Eurovision, en tous les cas de l'Eurovision perçue comme un événement.
Oui.
Et c'est vrai qu'ensuite, on a beaucoup travaillé pour être plus en ordre de bataille pour l'édition suivante qui se déroulait, souvenez-vous, en 2016 à Stockholm, en Suède.
Avec Amir, on écoute d'ailleurs un extrait. Amir qui avait terminé 6e, ce qui était déjà en soi un bon résultat.
Alors c'était un classement absolument incroyable. Je crois que le classement d'avant, ça devait être une petite dizaine d'années avant. Patricia Cass avait terminé 9e, donc c'était franchement un très bon classement. Et Amir, c'est sûr qu'il a signifié un renouveau de l'Eurovision avec une amélioration des audiences par rapport à l'année précédente. Des scores notamment sur les 15-24 ou sur les 25-34 ans qui sont vraiment importants pour nous. Et c'est vrai que voilà, on a pu développer ensuite cette stratégie d'événementialisation.
Est-ce que Amir n'a pas été aussi le candidat qui nous a permis de trancher une bonne fois pour toutes le débat sur la langue de la chanson qui doit représenter la France à l'Eurovision? On se rappelle qu'il avait glissé de l'anglais dans son titre et ça avait été un vrai succès.
Ça avait été une polémique,
oui,
au départ, mais ça, on apprend quand vous êtes sur l'Eurovision à gérer aussi des polémiques. Et effectivement, c'est pas un concours de la francophonie, l'Eurovision. C'est un grand concours européen de la chanson. La France, c'est normal, bien entendu, qu'on propose des chansons en français, mais le fait qu'à un moment donné, le refrain, pour plus d'efficacité auprès d'un public international, parce que c'est un public international qui vote, effectivement, ça a été assez efficace. Et aujourd'hui, avec la chanson de Bilal, personne ne se pose la question, à part quelques-uns, personne ne vient polémiquer sur le fait qu'effectivement une partie de la chanson Roi est en anglais. Donc ça, effectivement, Amir nous a aidé à faire bouger les lignes là aussi.
Et peut-être qu'il a également aidé à faire bouger une autre ligne, puisque l'Eurovision a été pour lui un booster et non pas un fossoyeur de sa carrière, comme ça a pu être le cas parfois pour certains artistes, parce que sa chanson, j'ai cherché après à cartonner tout l'été.
C'est vrai que ça a été un boost absolu de sa carrière et c'est là où effectivement tous les acteurs de l'industrie musicale se sont dit mais on a un intérêt nous-mêmes à investir sur des artistes autour de l'Eurovision avec France Télévisions parce que derrière, pardon de le dire, mais c'est bankable.
Alors après Amir 2017, il y a eu Alma, bon, qui a terminé 12e, enfin que ça avait plutôt bien marché. L'an dernier, Madame Monsieur 13e, un petit peu en dessous de vos espérances, mais c'était pas si mal. Et puis surtout un gros carton d'audience l'an dernier, 5 200 000 téléspectateurs sur France 2. Je crois que pour ça, au moins, vous étiez satisfait.
C'est important, effectivement. C'est à ce moment-là que Caroline Gott, patronne de France 2, s'est dit « on veut toucher davantage de public jeune, c'est normal, c'est l'avenir de France Télévisions ». Et on s'est dit « pour ça, on a une marque absolument fantastique qu'on développe maintenant depuis 4 ans, c'est l'Eurovision. Donc il faut qu'on poursuive le développement de la marque Eurovision sur les antennes de France Télévisions ». D'où effectivement cette idée de créer un concours national à l'image de ce qui se fait notamment en Italie et dans bon nombre de pays.
En Scandinavie aussi d'ailleurs.
Exactement, et ça cartonne, les scores d'audience sont incroyables. Mais l'idée de se dire, on va faire un concours qui permet au public français de choisir son candidat, ça y est. Et ça va donner effectivement Destination Eurovision. Et on était, après 3 primes, extrêmement fiers de la victoire de Madame Monsieur. On a été très satisfaits effectivement de les soutenir à Lisbonne. Et là encore, l'audience était absolument colossale. Je vous rappelle, 5,2 millions de téléspectateurs en moyenne. Leader devant la finale de The Voice. Et juste, puisque là je m'adresse à des spécialistes des dessous de l'écran, on a des parts d'audience sur les 15-24 ans qui sont à 45%. C'est-à-dire c'est à peu près les parts d'audience sur ces publics qu'on a sur Fort Boyard. Et c'est aussi pour ça que dans la foulée effectivement de Lisbonne, on a annoncé avec Delphine Ernotte l'arrivée sur France 2 de la marque Eurovision Junior.
Et c'est un moyen pour vous de faire vivre la marque Eurovision toute l'année aussi, cette manière d'enchaîner des concours annexes comme l'Eurovision Junior et Destination Eurovision?
C'est fondamental. Quand vous avez la chance de pouvoir être, comme on dit, le radiodiffuseur hôte du concours Eurovision, mais vous sautez dessus pour développer toute l'année la marque Eurovision. Le public est en contact avec la marque Eurovision, avec des bons scores là aussi sur les jeunes sur Destination Eurovision grâce à ce concours de sélection. Ensuite, février, mars, avril, mai, vous faites vivre votre candidat sur vos antennes, sur le numérique, dans les émissions, vous racontez les coulisses de sa préparation. Très grosse événementialisation la semaine précédant la finale, 4 prime mardi soir, la première demi-finale sur la 4, la deuxième jeudi, vendredi un doc sur Bilal, le suivi de sa préparation sur la 4, rediffusé le lendemain en après-midi sur la 2, etc. etc. Donc c'est vrai que ça vous permet de faire vivre l'événement jusqu'à mai. Et puis ensuite, vous retrouvez l'Eurovision, on va dire, à partir de septembre-octobre avec la préparation de Junior. Oui. Et pour répondre à votre question, c'est vraiment important que l'Eurovision vive tout au long de l'année sur nos antennes pour notre public.
Antoine Boilet, il faut souligner un point, c'est l'implication, j'allais dire, personnel de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Elle part, par exemple, là, demain, je crois, ou après-demain, à Tel Aviv. On n'avait jamais vu ça, une patronne de chaîne qui s'engage à ce point pour l'Eurovision.
Elle vient, un, en tant que présidente de France Télévisions, deux, pour aider l'équipe française et Bilal et lui donner là aussi de l'énergie avant le grand direct devant 200 millions de téléspectateurs, mais elle vient aussi au niveau européen comme numéro 2 de l'UR. Donc c'est important, moi, une partie aussi de mon job dans l'année, c'est de travailler avec le ministère des Affaires étrangères sur la mobilisation des ambassades et des réseaux culturels français dans tous les pays, y compris l'Australie, qui diffuse l'Eurovision. Parce que comme on ne peut pas voter sur le territoire métropolitain, bah on a besoin de nos camarades, les Français de l'étranger. Ah bah moi, je veux du vote, je veux des points. Ouais. Et donc, on mobilise les ambassadeurs. Donc, il y a aussi une vraie stratégie d'influence, certains diraient de soft power, au niveau international, pour que derrière, vous puissiez, autour de votre candidat, créer de la fierté. Et c'est pour ça que travailler avec le ministère des Affaires étrangères est quelque chose d'important. Mais... donc, il y a aussi de la politique dans l'Eurovision.
Oui. Dernière question, Antoine Boilet. Vous lisez comme nous les gazettes, vous entendez les rumeurs. Bon, Bilal Hassani, la rumeur le place pas forcément tout en haut. Comment allez-vous faire dans les jours qui viennent pour qu'il aille tout en haut, précisément?
Écoutez, paraît-il, depuis deux jours, il remonte dans les statistiques des bookmakers et des fans. Donc, on est optimiste et quoi qu'il arrive, on est super fiers de son parcours, de ce qu'il fait. Il incarne tellement bien la jeunesse française et la jeunesse européenne, cette envie de se bouger, cette envie de faire, cette envie de s'assumer. Et c'est ça que montre Bilal et cette chanson, sans pour autant qu'on en fasse le porte-parole de telle ou telle cause. Et c'est en ça que, pour nous, son message, il est fondamentalement universel.
Merci Antoine Boilet d'avoir été l'invité des Dessous de l'écran ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des antennes de France Télévisions. On croise les doigts, évidemment, pour Bilal Hassani samedi, pour qu'enfin, 42 ans après Marie-Mireille, il ramène cette victoire tant attendue à la France. Je précise que Laurent Marsic de RTL va passer toute la semaine à Tel Aviv. Il va nous faire vivre au plus près les derniers jours avant la grande finale de samedi. Merci Antoine Boilet.
Merci beaucoup.
Et merci à Benjamin Meffre de Pure Média. Dans un instant, autoradio, faut-il être fou en 2019 pour continuer à acheter un diesel?
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.